Bonjour à tous.
C'est avec émotion que je me tiens devant vous maintenant. Parce que, comme vous le savez, nous quittons prochainement le GE. Et c'est la dernière fois pour moi que j'ai l'opportunité, le privilège de pouvoir apporter la prédication. Et donc, c'est l'occasion pour moi aussi de vous remercier pour votre patience dans cet apprentissage long et exigeant qu'est l'apprentissage de la prédication. Mais vous allez être patient juste une dernière fois, c'est aujourd'hui. Donc peut-être c'est un soulagement pour vous. J'aimerais vous montrer ces deux images pour commencer. Qui veut gagner des millions? Quel est le lien entre ces deux images? Réfléchissez. Quelques petites pistes de réponse en bas. En fait, j'aimerais me servir de ces deux images pour répondre à une question. Bon, vous voyez, hein, c'est la Bastille à gauche avec le téléphérique et puis une scène connue du Seigneur des Anneaux à droite. Et j'aimerais me servir de ces deux images pour répondre à une question. Pourquoi faut-il lire l'Ancien Testament? Et l'Ancien Testament, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première partie de la Bible. Une partie qui a été écrite avant la naissance de Jésus-Christ et qui fait surtout référence à l'histoire du peuple juif. Et c'est vrai, le Nouveau Testament, donc la deuxième partie de la Bible, celle qui nous raconte principalement ce qui s'est passé après la venue de Jésus, avec la venue de Jésus, elle nous parle de quelque chose de merveilleux. C'est cette œuvre extraordinaire de Jésus-Christ, sa venue, son sacrifice, sa résurrection. Il nous parle de la manière de vivre notre foi après ce tournant décisif dans l'histoire de la rédemption. Et donc, c'est un livre très utile pour nous, le Nouveau Testament. Mais j'aimerais suggérer que pour bien apprécier le Nouveau Testament et l'œuvre de Jésus de manière générale, pour bien comprendre son message, eh bien, il faut que nous connaissions bien l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Imaginez que je décide d'aller me promener à la Bastille samedi prochain avec ma famille. Noémie monte à pied par les interminables marches d'escalier et moi, je prends le téléphérique. On arrive en haut tous les deux et la question se pose. Qui apprécie le plus cette arrivée à la Bastille? Qui apprécie le plus la limonade qu'on aura l'occasion de boire en haut? Qui apprécie le plus la vue magnifique sur Grenoble et sur les montagnes enneigées? Eh bien, assurément, c'est Noémie, qui sait tout le chemin qu'il a fallu faire, la sueur, les efforts pour en arriver là. Et ça rend d'autant plus beau ce sommet. Et si cette image ne vous parle pas parce que vous préférez le canapé à la montagne, eh bien, repensez à ce que vous avez ressenti lorsqu'enfin Gollum tombe avec l'anneau dans cet étang de lave du Mordor, cet anneau qui a fait tant de dégâts, enfin détruit. Vous repensez au périple de la petite communauté de l'anneau, tout ce périple qu'elle a fait pour en arriver là, tous les retournements de situation. Toutes les fois où ça aurait pu échouer. Et vous prenez conscience de la portée de la destruction de cet anneau. Maintenant, imaginez que quelqu'un se pointe juste au moment de cette scène de la destruction de l'anneau et ne connaît rien du reste de l'histoire. Va-t-il apprécier et comprendre avec autant de profondeur que vous la portée et la valeur de cet événement dans l'histoire du film? C'est sûr que non. Eh bien, les amis, pour bien comprendre le Nouveau Testament et Jean 7, le passage qui va nous occuper ce soir en particulier, il faut connaître l'Ancien Testament. Et ce principe est vrai pour beaucoup, beaucoup de textes du Nouveau Testament. Et vous pouvez y voir une motivation à plonger vos regards dans l'Ancien Testament, même dans des passages qui peuvent paraître lointains ou difficiles à comprendre. Alors comme ça sert à rien de lire Jean 7 sans connaître l'arrière-plan qui est sous-entendu dans ce passage. Je vais commencer par vous raconter deux épisodes marquants de l'histoire de l'Ancien Testament. Le premier épisode se trouve en Exode 17. Ce passage arrive juste après que Dieu ait libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Le peuple d'Israël est dans le désert pour un périple qui va durer 40 ans. Ils vont devoir habiter dans des tentes, faire face à de nombreux dangers, et en particulier dans le désert, celui de la faim et de la soif. Et en Exode 16, le peuple vient de voir un miracle se produire. Dieu leur a envoyé du pain tomber du ciel comme la rosée du matin, et il leur a donné de la viande en abondance. Et donc, le peuple d'Israël n'a plus faim. Mais il a soif. Et voilà ce qui se passe. En Exode 17, versets 1 à 7, toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donne-nous à boire de l'eau !» Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres !» L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» De quoi nous parle ce passage ? De l'histoire d'un peuple qui a peur de mourir. C'est un peuple en détresse physique. Il a peur de mourir de soif dans le désert et il préfère mieux retourner en esclavage pour au moins juste survivre. Mais cette détresse physique démontre l'existence d'une autre détresse, une détresse spirituelle. En fait, si le peuple a peur de mourir, c'est parce qu'il se pose la question de la présence de Dieu. L'Éternel est-il au milieu de nous ? Oui ou non ? Ça, c'était le premier épisode. Deuxième épisode, c'est la fête des tentes, la fête des cabanes. Et je vais juste lire aussi un passage qui fait référence, Lévitique 23, 40 à 43, qui nous explique cette fête. « Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. » Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Ça, c'est la fête des tentes. Et s'il y a des scouts parmi nous, j'imagine que ce serait une fête que vous aimeriez fêter. Mettre des tentes ou des cabanes. C'est une fête de réjouissance où on fait une grosse fête avec plein de choses à manger, où on fait comme du camping. Et le but de cette fête est double. Premier but, se rappeler que le peuple d'Israël a vécu dans le désert pendant 40 ans et que Dieu a pourvu à tous ses besoins pendant ce temps. La fête des tentes célébrait la protection, la bonté de Dieu qui les a conduits jusque dans ce nouveau pays pour leur accorder des récoltes abondantes. Et il y avait en particulier pendant cette fête des cérémonies avec de l'eau pour se souvenir de cet épisode d'Exode 17 qu'on a rappelé, où Dieu a donné de l'eau à son peuple miraculeusement dans le désert. Mais la fête a un autre objectif, tourné vers le futur. En fait, tous ces rituels avec de l'eau qui étaient faits pendant la fête, c'est aussi pour annoncer l'effusion de l'Esprit par le Seigneur dans les derniers jours. Le fait que Dieu promet de donner son esprit comme un torrent qui arrive sur le peuple et qui donne la vie au peuple. En fait, Dieu avait annoncé, là j'ai mis quelques références qui parlent de ça, j'ai pas le temps de les lire. Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament la venue d'un temps où le Messie viendrait à Jérusalem, déverserait l'Esprit en abondance comme un torrent qui jaillirait du temple et qui arroserait toute la terre pour donner la vie abondamment. Donc ça, c'est les deux objectifs de cette fête. Tourner vers le passé, on se souvient des bontés de Dieu, et vers l'avenir, on attend que Dieu déverse son Esprit en abondance comme il a promis de le faire. Et on a un petit passage dans l'Ancien Testament qui raconte cette fête. Comment elle est vécue une fois pour le peuple d'Israël. Et ça, c'est dans Néhémie 9. Et je vais juste en lire un petit extrait. Le peuple fait une prière à la fin de cette fête et ils reconnaissent que c'est Dieu. Dieu, l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Que c'est toi, Éternel, qui a délivré ton peuple d'Égypte. C'est toi, Dieu Tout-Puissant, qui a guidé ton peuple dans le désert, etc., etc. Et verset 20, tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages au peuple. Tu ne les as pas privés de ta manne, le fameux pain qui est descendu du ciel, et tu as continué à leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert, sans qu'ils manquent de rien. Alors cette fête, comme Exode 17, témoigne d'une chose. Dieu répond à nos besoins physiques, qui sont les symboles de nos besoins spirituels. Dieu comble notre détresse physique pour nous montrer qu'il veut combler notre détresse spirituelle par son esprit. Et j'aimerais suggérer qu'on est dans la même situation que le peuple d'Israël. On est également, en tant qu'humanité ou individuellement, dans une grande détresse spirituelle. On a véritablement besoin que Dieu agisse en déversant son esprit. Et cette détresse spirituelle se manifeste parfois par une détresse physique. Parce qu'on a tendance à combler notre détresse spirituelle de manière matérielle. La sous-nutrition, qui est un fléau dans le monde, la suralimentation, qui est un autre fléau, la crainte du frigo vide ou du froid cet hiver, la crainte de la pénurie d'essence ou de papier toilette, la crainte de la perte du travail ou de la santé, sont des détresses qui peuvent nous toucher et qui touchent beaucoup de monde et qui révèlent une soif. Comme le dit un commentateur, on a soif de sens dans un quotidien assommant. On a soif d'apaisement devant tous les plaisirs stériles qui ne satisfont pas. On a soif de relations quand toutes nos relations nous semblent superficielles, égoïstes, décevante. On a soif d'éternité quand on a peur de mourir. On a soif de Dieu quand la religion ou même le culte nous laisse vide. On a soif d'intensité et de communion avec Dieu quand on ressent une sécheresse spirituelle. On a soif devant l'injustice du monde, devant la nature qui part en vrille, devant les humains qui se font la guerre. On a soif quand on examine notre propre cœur et qu'on ressent une grande culpabilité parce qu'on se sent impur, parce qu'on se sent esclave de comportements immoraux qui nous font du mal ou qui font du mal aux autres. Moi, personnellement, j'ai soif. Et j'ai tendance à chercher désespérément à combler cette soif. Et vous, est-ce que vous ressentez ce genre de soif qui peut se traduire par des éléments spirituels, intérieurs ou physiques, extérieurs? Et vous, par quoi comblez-vous cette soif spirituelle? Venons-en maintenant à Jean 7. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à Jean chapitre 7, page 692 pour ceux qui ont une Bible blanche. Si vous n'en avez pas, il y en a dans la caisse rouge au fond. Et s'il vous plaît, gardez votre Bible ouverte dans ce passage de Jean chapitre 7. On ne pourra pas lire le chapitre tout entier, il est assez long et il regorge de plein de belles choses. Et je vous invite fortement à le lire dans vos groupes Grésy Connect cette semaine en entier pour mieux comprendre tout le contexte de ce chapitre. Mais je commence donc juste par donner un peu de contexte vu qu'on ne va pas pouvoir le lire entier. C'est le moment de la fête des tentes. La grande fête religieuse, l'une des plus populaires de l'époque. Tout le monde va à Jérusalem pour y assister. Alors les frères de Jésus lui disent « Si tu veux devenir célèbre, Jésus, on pense que c'est l'occasion ou jamais. Si tu veux gagner un max de followers, c'est l'occasion ou jamais. Vas-y, monte à la fête et fais des miracles. Tout le monde va t'acclamer. Vas-y. » Mais ce n'est pas le plan de Jésus. Et il décide de monter en cachette à la fête sans que personne le sache. Alors la fête commence et là, il y a une ambiance super étrange qui se met en place. Tout le monde cherche Jésus, qui commence à devenir connu à ce moment-là, et donc tout le monde le cherche. Tout le monde cherche Jésus et parle de Jésus. Mais en murmure, parce que les chefs juifs veulent le faire mourir. Donc dans la fête, c'est le sujet de conversation numéro 1, alors qu'officiellement, il n'est pas là. Et on se pose la question, Jésus, est-il parmi nous ? Oui ou non ? Et d'ailleurs, tu penses que c'est qui Jésus ? Juste un gars bien ? Ou un homme qui égare le peuple ? Et là, au milieu de la fête, donc une fête qui dure 7 jours, au milieu de la fête, Jésus va au temple et enseigne publiquement. La tension monte alors que tout le monde parlait de lui en cachette et que les chefs juifs veulent le faire mourir. Ça parle de plus en plus sur lui. On se questionne sur son origine. Les gens ne comprennent pas pourquoi, s'il est recherché par les chefs juifs, on le laisse parler comme ça sans rien dire. Et la confusion sur son identité est présente plus que jamais. Tout le monde se demande qui est Jésus, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut. Et là, on arrive au verset 32 du chapitre 7 que je vous invite à lire. Jean 7, verset 32. Les pharisiens entendirent la foule murmurer ses propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent alors entre eux, « Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas ? Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-Juifs ? Que signifie cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Confusion dans la foule. Verset 37. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète !» D'autres disaient « C'est le Messie !» Mais d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir ?» Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé tromper ? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Es-tu toi aussi de la Galilée ? Cherche bien, et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Jusqu'ici, notre lecture. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage ? Trois choses qu'on va parcourir rapidement. Une déclaration, d'abord, de Jésus. Déclaration qui génère de la division parmi la foule et qui invite à une prise de décision. Commençons par la déclaration mystérieuse de Jésus. Et j'espère qu'avec ce qu'on a vu en intro, vous avez tous fait le lien. Comment comprendre cette parole de Jésus ? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Eh bien, voici ce que Jésus est en train de dire. Ce que vous fêtez pendant la fête des tentes, celui que vous adorez parce qu'il vous a donné de l'eau dans le désert, celui qui va répandre son esprit abondamment, comme un fleuve d'eau vive qui donne la vie, c'est moi. Je suis le rocher d'Exode 17 qui donne la vie. Je suis l'accomplissement de tout ce que la fête des tentes annonce. Je suis l'eau de Dieu qui étanche votre soif. Je suis celui qui donne l'esprit. Alors venez, dit Jésus. Je suis le Dieu que vous adorez. Je suis l'Éternel. Venez boire, vous qui avez soif et qui aspirez à des jours d'abondance, vous qui désirez être purifiés de vos péchés, vous qui craignez pour votre vie physique, vous qui vous posez la question de la présence de Dieu parce que l'envahisseur romain occupe votre pays, vous qui vous posez la question de la présence du Messie, il est là. Et c'est moi. Venez. Et si vous venez, si vous croyez en moi, si vous placez votre confiance en moi pour vous abreuver, je vous donnerai mon esprit. Et la vie jaillira de vous en abondance, comme des fleuves d'eau vive. Elle vous comblera, elle comblera votre détresse spirituelle et elle débordera sur les autres. Vos besoins physiques, votre inquiétude pour le lendemain, votre peur de la maladie, de la mort, où toutes les insatisfactions de la vie peuvent être comblées si vous venez à moi pour trouver l'eau qui étanche votre soif. Voilà le sens et la portée de cette déclaration de Jésus. Et c'est absolument énorme. Parce qu'en disant cela, il nous dit que quand on est rempli de son esprit, on n'est plus dans la détresse physique parce qu'on a une conscience accrue que la vie abondante et confortable qu'on cherche tant ne se compte pas en chiffres sur un compte en banque, en quantité de biens matériels accumulés, en chiffre d'affaires de son entreprise ou en nombre de restos qu'on peut se payer chaque semaine. La vie fertile nous est acquise et nous sera pleinement accordée lorsque le royaume de Jésus sera définitivement établi. Notre soif est étanchée et on arrête de courir parce qu'on découvre en Christ un sens à notre existence, une place dans son plan qui nous dépasse, un frère qui compatit à nos souffrances, un père qui nous pardonne et qui nous aime. Et on trouve ce à quoi on aspire tant, mais qu'on cherche au mauvais endroit. Dans ma jeunesse, je faisais beaucoup d'escalade. Et à 16 ans, je suis parti avec un copain de classe gravir la plus grande voie d'escalade de ma vie. C'est une voie qui est sur cette grande falaise qui fait plus de 500 mètres de haut. Et donc, on est parti la veille de l'ascension déjà pour s'approcher le plus du pied de la falaise et pour pouvoir partir le plus tôt possible. On savait qu'il y allait avoir beaucoup de temps d'ascension. Et donc, on part avant 7 heures du matin du pied de la falaise et on a vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes pendant l'ascension. Et surtout pendant la descente. Et on arrive après 21h au pied de la falaise. Et on avait avec nous 2 litres d'eau. Et c'était en plein été. On était deux. Et c'est une falaise orientée plein sud. Et donc vous pouvez imaginer, entre tous les efforts accumulés, et l'absence totale d'eau qu'on a pu boire, la soif qui était présente. Et dans notre sac en bas, qu'on avait laissé en bas, il y avait une orange. C'était une des seules choses qui comptait pour nous. Et j'ai jamais eu autant soif de ma vie. Et je peux vous dire, la demi-orange, puisqu'on était deux, la demi-orange qu'on a mangé à ce moment-là, c'était juste extraordinaire. Après une journée entière sans manger, sans boire, de croquer dans cette orange pour juste humidifier un peu notre gorge et donner un peu de sucre pour finir la descente qui nous restait, c'était juste incroyable. Et bien voilà ce que procure le fait de venir à Jésus quand on a vraiment soif. Et on a tous vraiment soif. Une lecture que j'ai faite cette semaine nous dit que le désert le plus aride, le sol le plus crevassé, le cœur le plus endurci, l'existence la plus malheureuse peuvent être régénérés et revivifiés. Le Saint-Esprit est puissant pour faire naître une oasis de paix là où il ne restait que ruines et dévastation. Et pendant une période de ma vie, je peux témoigner que j'avais une soif intérieure qui n'était jamais étanchée et que je cherchais à combler de la mauvaise manière. Et en ce qui me concerne, ben, c'était faire ce genre de truc, en fait. C'était faire des sports de montagne. Mais je peux vous dire, la paix et la sensation de satiété que produit le fait de découvrir la vraie source qui désaltère notre soif. Une fois qu'on a trouvé ce qu'on cherche tant en faisant autant la mauvaise chose, une fois qu'on l'a trouvé en Jésus, la paix que ça procure, le repos que ça procure est incroyable. Et quelque chose qui était caractéristique de ma soif, et pourquoi je vous dis que mon rapport au sport de montagne était signe d'une soif spirituelle, c'était que j'en voulais toujours plus, que j'étais jamais en paix, et que j'étais pas forcément en paix avec ce que je faisais, et que ça omnubilait mes pensées. J'en voulais toujours plus, je trouvais jamais la paix. Plus j'en faisais, moins je trouvais la paix. et ça omnubilait mes pensées. Et la libération que c'est d'enfin s'abreuver à la source, la vraie source, la source dont j'avais besoin. La libération que c'est est juste formidable. Alors que génère cette déclaration de Jésus si puissante? Eh bien, de la division, verset 43. Certains disent, ben ouais, il vient de dire qu'il est Dieu, donc c'est bien le prophète qu'on attend, c'est le Messie. D'autres se posent encore des questions à son sujet, et d'autres veulent l'arrêter. Mais qu'est-ce qui nous fait comprendre Jean ici? Bah que les arguments de ceux qui se posent encore des questions, qui sont sceptiques, ne sont pas super bons. Vous avez peut-être souri face à ce questionnement. Regardez l'ironie. Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? Il ne doit pas venir de la descendance de David et de la ville de Bethléem? Mais si Jean prend le temps de rapporter ses paroles, c'est parce qu'il sait très bien que c'est exactement le cas. Jésus est né à Bethléem. Il est de la descendance de David. Et dans cette salle, il y a probablement aussi les trois types de réactions qu'on peut voir dans ce passage. Il y a ceux qui adhèrent à la déclaration de Jésus et qui reconnaissent sa véritable identité. Et le challenge pour vous, c'est d'identifier les domaines dans lesquels vous cherchez ailleurs qu'en Jésus la source de quoi étancher votre soif, comme je viens de le témoigner pour moi-même. Il y a ceux qui se posent encore des questions à son sujet et qui ont des objections. Et pour vous, je vous invite à discuter de vos objections avec des chrétiens et à chercher sérieusement à y répondre. Peut-être que vous êtes juste comme les sceptiques de ce texte et qu'en fait, il y a une bonne réponse à vos objections. Et peut-être que vous faites partie de ceux qui sont énervés dès que le mot Jésus est mentionné. Vous êtes peut-être venu pour faire plaisir à votre ami qui vous a invité ou parce que vous cherchez des réponses. Vous avez peut-être eu une mauvaise expérience avec la religion ou avec des personnes qui se disent chrétiennes. Vous avez peut-être de la haine à cause de Jésus d'une manière ou d'une autre parce que vous ne le trouvez pas tolérant ou parce que vous ne comprenez pas qu'il puisse avoir un droit de regard sur votre vie ou porter un jugement moral sur vos actes. Et j'aimerais, à vous, vous dire une vérité qui devrait vous apaiser. Vous ne pouvez rien faire contre Jésus. Vous ne pouvez rien faire contre Jésus. Au verset 44, Jean nous dit que, personne ne mit la main sur lui. Et on verra plus tard que si Jésus a été arrêté par ceux qui avaient de la haine contre lui, c'est parce qu'il s'est volontairement livré pour se donner en sacrifice pour l'humanité. Alors vous pouvez être certain que vous ne pouvez rien faire contre lui. Par contre, vous pouvez faire comme ces gardes qui devaient l'arrêter, mais qui, après l'avoir entendu, ont dit « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Et s'il vous plaît, écoutez sérieusement ce qu'il a à vous dire et soyez prêts à revoir votre jugement à son sujet. Et ma prière, c'est que vous vous rendiez compte, comme beaucoup s'en sont déjà rendus compte, que jamais personne n'a parlé comme cet homme. Et que la raison à ça, c'est que Jésus n'est pas un homme comme les autres. C'est le Dieu éternel qui vient pour nous sauver parce qu'on est en train de mourir de soif. De soif spirituelle. Et enfin, Jean 7 termine avec des exemples de décisions qui sont prises suite à la déclaration de Jésus et à la division que cette déclaration génère. On a d'abord les gardes qui prennent la décision de ne pas l'arrêter parce qu'ils sont confondus et par ce qu'ils viennent d'entendre. On a aussi les chefs religieux qui font le choix de s'endurcir dans leur haine contre Jésus malgré l'évidence. Et on a Nicodème, qu'on a déjà rencontré dans l'évangile de Jean, et qui invite subtilement ses collègues à revoir leur jugement en ce qui concerne Jésus et à ne pas le condamner trop vite. C'est un exemple de courage d'un croyant dans un environnement hostile à Jésus. Alors ma question, c'est dans quel groupe vous vous trouvez? Dans quel groupe vous vous trouvez? Et c'est ma dernière question. Dans quel groupe vous vous trouvez? Prions pour que Dieu fasse tomber la résistance de ceux qui sont condescendants comme ces chefs juifs, qui méprisent les autres, ils méprisent Nicodème, ils méprisent la foule, et surtout qui méprisent le Dieu créateur parce qu'ils méprisent Jésus. Prions pour qu'il y ait plus de gardes parmi nous, qui entendent l'évangile, pour la première fois peut-être, et qui confessent que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et prions pour qu'il y ait plus de Nicodème parmi nous, qui ont le courage de défendre leur Seigneur face à l'opposition, qui se sont rendus compte qu'en venant à cette source, ils ont découvert ce qui pouvait les abreuver, qui ont découvert le sens à leur existence et qui veulent le partager aux autres. Amen.